Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Cogitons Science, le podcast qui décrypte les enjeux des sciences. Je m'appelle Séverine Fontaine et je suis journaliste scientifique pour Technique de l'ingénieur. Aujourd'hui, notre épisode est le premier d'une nouvelle mini-série intitulée « L'intelligence artificielle s'invite dans nos métiers ». Dans ce premier épisode, nous accueillons Frédéric Pascal, professeur des universités à Centrale Supélec de l'Université Paris-Saclay et directeur de l'Institut Data-IA, et Marie-Aude Aufort, directrice de la Société de conseil et de formation en Big Data et Intelligence Artificielle DataHarvest, afin de comprendre comment l'intelligence artificielle révolutionne nos métiers et son impact sur notre façon de travailler. Avant d'entrer dans le vif du sujet, Frédéric Pascal, pouvez-vous nous donner votre définition de l'intelligence artificielle ?
Je dirais que l'intelligence artificielle, c'est un ensemble de procédés complexes, logiques et automatisés au travers d'algorithmes et qui permettent de réaliser des tâches. Et ces tâches, en général, sont des tâches qui peuvent être faites par des humains. Donc, il y a vraiment une idée d'imiter des tâches, notamment voir, apprendre, comprendre, décider, prédire. Mais il faut comprendre que c'est des systèmes complexes de succession de technologies. Donc, c'est pas un être humain, ça n'a absolument rien à voir avec l'intelligence humaine. Un exemple, quand on parle de voir, on parle simplement de capteurs, donc de caméras qui vont recevoir des images ou de la vidéo. Et donc, ces choses-là sont de la donnée qui devront être traitées pour interpréter cette vision. Mais c'est pas la même chose. Donc, un bon exemple souvent qui explique un peu une chaîne générale de ce qu'est l'intelligence artificielle, c'est le véhicule autonome, puisque il y a plein de capteurs partout pour voir. Il doit apprendre à partir des données, ensuite prendre des décisions, avancer, s'arrêter, éviter un obstacle, etc., etc. C'est utilisé dans absolument tous les domaines, mais ça repose quand même sur des compétences de mathématiques et d'informatique et d'ingénierie. C'est vraiment les trois piliers. Et aujourd'hui, ce à quoi on est confronté dans la société, c'est plutôt l'intelligence artificielle dite générative, qui est quand même très liée au machine learning, à l'apprentissage machine. Et peut-être pour comprendre ce que c'est aujourd'hui et la différence avec ce qu'était avant des programmes plutôt informatiques, on recevait des données, on définissait un programme, un algorithme informatique avec des règles logiques, traiter cette approche, compresser les données, etc. Et on obtenait le résultat. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, la méthodologie est très différente. C'est on prend les données qu'on reçoit, on regarde le résultat qu'on veut avoir, et à partir de ces deux choses, le programme se construit, l'algorithme se construit, et on ne sait pas forcément ce qu'il y a dans l'algorithme. Et l'exemple qui a été assez discuté déjà, c'est par exemple une tâche très simple qui est de reconnaître un chat. Reconnaître un chat, on donne à un ordinateur, une machine, des images de chat, on lui dit que c'est un chat, et un algorithme se crée pour reconnaître un chat. Et donc là, il faut bien voir que ça n'a rien à voir avec l'intelligence humaine, puisque pour un enfant, même très petit, reconnaître un chat, il a besoin de voir 2 à 3 chats. Pour une machine, il lui faudra des dizaines, des centaines, voire plus d'images de chats pour reconnaître un chat. Les algorithmes apprennent et raisonnent, ils ne le font pas tout seuls, c'est-à-dire qu'ils doivent être guidés aujourd'hui. Même pour les algorithmes d'intelligence artificielle générative, alors l'IA générative n'est pas en mesure de répondre. Justement, elle ne réfléchit pas. Elle produit une réponse à partir des données qui ont été ingérées. Et c'est pour ça que, justement, au-delà de ces logiciels d'IA générative, il y a beaucoup de travail à faire pour pouvoir bénéficier des avantages de ces logiciels.
Comment les ingénieurs et chercheurs sont confrontés à l'intelligence artificielle dans leur métier ?
Il faut distinguer en fait l'intelligence artificielle qu'on pourrait dire classique, c'est-à-dire celle où il faut absolument programmer pour obtenir un résultat, de l'intelligence artificielle générative où on va pouvoir générer du texte ou des images à partir de requêtes utilisateurs, donc ce qu'on appelle les prompts, où on va définir un peu précisément ce qu'on veut. Donc la manière de se confronter à l'IA, ça va dépendre aussi de sa capacité à programmer ou pas, ou à s'entourer en fait d'une équipe de data scientists ou d'ingénieurs en intelligence artificielle. On peut utiliser l'intelligence artificielle pour infirmer ou affirmer des hypothèses. Donc on a une certaine hypothèse à partir de nos données et on va appliquer des techniques de machine learning, par exemple pour voir quelles sont les variables qui sont importantes, est-ce que ça corrèle bien les idées, l'intuition qu'on avait au départ. Donc ça, c'est extrêmement intéressant de le faire. Au niveau des chercheurs, on peut dire que notamment l'IA générative peut être extrêmement intéressante pour faire de la veille scientifique, faire des résumés d'articles de recherche. On a accès en fait à une somme de connaissances assez impressionnante avec ces modèles de langage. On peut aussi utiliser de l'intelligence artificielle pour trouver des signaux faibles, des corrélations un petit peu surprenantes. Sur l'IA générative, on peut prendre comme exemple un livre qui a été écrit par un ensemble de scientifiques et a été écrit en 6 mois au lieu de 18 mois avec l'aide de ChatGPT. Donc on fait des gains en temps, en productivité, on fait aussi des économies d'argent.
Comment évoluer avec l'intelligence artificielle ?
Les outils d'intelligence artificielle évoluent très très vite sur plusieurs aspects. Quand on parle par exemple de ChatGPT, on voit les versions qui sont développées, qui progressent, qui produisent des performances souvent meilleures, qui ont des capacités souvent plus grandes, notamment l'intégration de données dans le questionnement par les utilisateurs. Donc ça évolue vraiment très très vite. Donc je pense qu'il y a plusieurs aspects sur cette question, mais une chose qui aujourd'hui me semble absolument essentielle, c'est la formation tout au long de la vie. Évidemment, ça va dépendre du profil et du métier de chaque ingénieur, mais de faire régulièrement des mises à jour qui peuvent être approfondies ou pas nécessairement, mais de voir à quel moment, à quel endroit on en est de l'intelligence artificielle et également d'avoir toujours un certain recul. Ça, c'est quelque chose qui, à mon avis, est essentiel, puisque aujourd'hui, les algorithmes d'intelligence artificielle, beaucoup d'algorithmes ne sont pas encore expliqués, quand bien même ils produiraient des performances pour une tâche donnée très bonne, on n'est pas toujours capable de comprendre pourquoi les performances sont aussi bonnes. Il faut quand même garder à l'esprit qu'il faut avoir du recul par rapport à ces algorithmes, c'est-à-dire ne pas prendre en permanence pour argent comptant le résultat produit par un algorithme.
En quoi l'intelligence artificielle modifie notre façon de travailler ?
Alors, bien sûr, ça modifie la façon de travailler. Toujours si on prend l'IA générative, on va pouvoir automatiser des tâches chronophages. Donc, il faut déterminer, en fait, ce qu'on a intérêt à laisser à l'IA générative et ce qui est vraiment cœur de métier et qu'il faut conserver. Donc il faut vraiment pour chaque métier en fait être capable de déterminer quelles sont les tâches qui peuvent être automatisées et pour lesquelles le gain de temps est vraiment intéressant et les tâches qui sont vraiment cœur de métier qu'on va conserver. Alors par exemple pour les ingénieurs, ça peut être faire automatiquement des résumés de réunions, ça peut être de l'aide à l'innovation en combinant du texte et de l'image, par exemple du design et de la conception d'un véhicule. Donc on peut utiliser l'intelligence artificielle pour pouvoir combiner des textes et des images et faciliter l'innovation, sachant que la partie créativité, elle est toujours injectée par l'humain. Et c'est nous qui demandons, qui donnons une requête précise et qui injectons cette créativité. Du coup, il faut aussi se former pour savoir en fait comment faire des requêtes les plus précises possibles, les plus intéressantes possibles, comment on peut dialoguer avec l'IA générative. Et alors, bien sûr, sur l'IA classique aussi, ça va modifier la façon de travailler, puisque l'utilisation, la mise en place de ces algorithmes va être faite par des équipes de data scientists. Donc, il va falloir dialoguer entre le métier et le data scientist, à la fois pour la conception des algorithmes et aussi pour l'interprétation derrière des résultats et voir quelles sont les conséquences sur le processus. Donc oui, ça modifie très clairement la façon de travailler et ça a été amplifié avec l'IA générative et donc avec aussi des gains de temps importants.
Qui sera avantagé par l'utilisation de l'intelligence artificielle ?
À cette question, la première idée qui me vient, les personnes qui seront avantagées, c'est souvent les personnes qui sauront. Il y a une notion de savoir. Donc, c'est vraiment en lien avec cette évolution, cette formation. Donc, pour être avantagé, j'imagine que vous entendez bénéficier au maximum des résultats d'outils, d'intelligence artificielle dans le travail. Il y a vraiment cette idée de comprendre et savoir. Donc, être à jour, savoir ce que l'intelligence artificielle peut faire et ne peut pas faire, et savoir l'utiliser. Alors, peut-être un bon exemple pour illustrer ce propos d'utilisation. Très récemment, il y a eu plusieurs articles sur un algorithme d'intelligence artificielle qui a produit des performances assez bonnes aux Olympiades de mathématiques, notamment en géométrie euclidienne, qui était le premier puisque jusqu'à présent, ça marchait pas très très bien. En fait, si on redescend un petit peu de niveau, si on cherche à résoudre des problèmes mathématiques très très simples qui ont une succession de phrases, qui sont des phrases très très simples, qui derrière peuvent se traduire par un problème d'addition et de soustraction. Si on pose la question comme ça, sur la première version de ChatGPT, la réponse sera très souvent fausse. C'est de l'IA générative, donc les réponses ne sont pas toujours les mêmes. Pourquoi elle sera fausse? Parce que justement, il y a une succession de phrases qui sont liées les unes aux autres et chaque énoncé a une conséquence sur l'énoncé précédent en vue du résultat. Et en fait, il est possible d'utiliser toujours cette première version de ChatGPT pour obtenir la bonne réponse. Et pour ce faire, en fait, il faut en quelque sorte aider le logiciel, en tout cas l'accompagner en lui expliquant. Et quand je dis expliquer, encore une fois, on ne parle pas à un être humain. C'est à une machine, donc on donne des informations à une machine, et donc en lui expliquant de découper phrase par phrase et de donner le résultat de façon séquentielle, c'est-à-dire le premier résultat, puis le deuxième, et ensuite de concaténer ces résultats. Donc en lui expliquant de découper les tâches successivement, le logiciel donnera la bonne réponse. C'est ce qui s'appelle du prompting aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on va justement donner des instructions complémentaires à un algorithme d'IA générative pour être le plus précis et aller vers les bonnes réponses. Et donc, un logiciel d'intelligence artificielle générative, donc je parle beaucoup de IA générative textuelle, mais c'est valable pour la génération d'images ou de vidéos, ça doit être encadré, accompagné pour produire des résultats qui soient satisfaisants. Ça, c'est l'avantage sera sur la capacité d'utiliser de façon optimale les algorithmes d'intelligence artificielle. Et au-delà de ça, si on regarde de façon un peu plus globale, puisqu'on parle d'outils qui vont être intégrés, qui pour certains vont accélérer la réalisation de certaines tâches, dans ces cas-là, il faudra vraiment comprendre où les algorithmes d'intelligence artificielle apportent de la valeur dans une chaîne potentiellement complexe, hein, une chaîne industrielle notamment. Donc, il y a vraiment ces aspects, comprendre, savoir utiliser et en ayant les bonnes pratiques, c'est-à-dire dans un cadre qui soit complètement éthique.
Comment l'intelligence artificielle peut-elle faire monter en compétences?
Plutôt que monter en compétences, j'aime bien le terme monter en efficacité. C'est-à-dire être plus efficace sur certaines tâches et pouvoir se concentrer sur d'autres tâches plus importantes. Maintenant, sur les aspects de monter en compétences à proprement parler, je pense qu'un point qui est très très intéressant pour les ingénieurs, les chercheurs, les médecins qui ne sont pas des data scientists ou des développeurs, je pense qu'il y a une montée en compétences que l'on peut voir, hein, déjà autour de nous, assez importante, notamment sur les aspects de la donnée, de la récolte des données. Ça, c'est quelque chose, à mon avis, d'assez important, puisque pour qu'un algorithme soit performant, il faut que les données, les observations qui sont proposées à la machine soient de bonne qualité. Alors, il ne faut pas qu'il y ait de données aberrantes, ou le moins possible. Il faut que les données soient représentatives du plus grand nombre de scénarios possible. Il faut que les données soient structurées, notamment dans le cadre de données hétérogènes, des mélanges d'images, de données textuelles, etc. Et en fait, c'est vraiment un des aspects cruciaux, c'est-à-dire que dans l'intelligence artificielle, il faut que les données apportées à la machine soient de bonne qualité. Et la plupart des gens qui travaillent avec des données, et c'est le cas justement des ingénieurs et des chercheurs qui ont à leur disposition beaucoup de données, quel que soit le domaine. Dans certains cas, les données, ils les récoltent. Je pense à un médecin qui fait passer des échographies, des électroencéphalogrammes. Il va récolter des données à la suite d'un examen médical. Et cet examen médical, il utilise des capteurs. L'échographie, c'est un capteur. Et puis, on voit une image. La réalisation de cet examen médical va produire des données. Et à partir de ces données, on peut utiliser des algorithmes pour essayer de découvrir des choses qu'on n'arriverait pas à voir à l'œil nu, qui sont cachés dans les données, parce que trop de bruit, parce que quelque chose qui n'est pas simple d'observation. Mais pour que ça marche, il faut que les données soient récoltées correctement. Donc je pense que le fait de comprendre qu'est-ce que peut apporter l'intelligence artificielle va faire monter en compétence sur des aspects, disons, plus ad hoc ou annexes, et notamment sur les aspects de récolte des données, c'est-à-dire de récolter des données de qualité, de produire des données qui ne sont pas toujours la même observation. Après, il y a vraiment cette notion d'efficacité. La montée en compétence, c'est, ça peut être aussi des tâches qui sont simplifiées. On pense aujourd'hui, évidemment, une revue de presse qui demandait la lecture de plein d'articles. Ça se fait très, très rapidement avec des outils d'intelligence artificielle. Donc, il y a vraiment d'un côté cette montée en efficacité et de l'autre, une montée en compétence sur certaines actions.
Vous nous avez déjà donné de nombreux exemples, mais pouvez-vous nous dire quelles tâches pourront être réalisées par l'intelligence artificielle ?
Aujourd'hui, il y a beaucoup de tâches qui concernent, par exemple, les ingénieurs, les chercheurs, les développeurs autour du code informatique, le fait de développer un algorithme, de coder un algorithme. Cette tâche, elle peut être faite par de l'intelligence artificielle, mais pas la tâche globale, c'est-à-dire que l'ingénieur sait quel algorithme il doit développer pour quel type de fonctionnalité il souhaite. Par contre, le fait d'écrire des lignes de code, de savoir la syntaxe du code, ça va produire des résultats absolument considérables. Jusqu'à présent, les gens qui devaient écrire des codes, tous les ingénieurs d'aujourd'hui qui ont été élèves ont fait ça. Pour écrire un code, les gens vont sur des forums, apprennent cette nouvelle fonction, découvrent cette nouvelle librairie, etc. etc. Et ça, c'est une recherche qui prend du temps, qui est fastidieuse, qu'il faut adapter, puisqu'on propose une ligne de code, mais ce n'est pas exactement ce qu'on souhaite mettre dans notre algorithme. Là, aujourd'hui, ça se fait instantanément. Un autre exemple, la traduction aujourd'hui, elle est très très bonne. Donc, il y a peut-être même un lien de montée en compétence. Hein. C'est-à-dire qu'à force de lire des choses, les ingénieurs, les chercheurs travaillent énormément en langue anglaise. À force de recevoir des possibilités de traduction différentes qui signifient d'autres choses, ça fait monter en compétence aussi sur ces aspects-là. Les aspects de synthèse, ça, c'est des tâches qui sont, aujourd'hui, faire un résumé, c'est presque essentiel quand on fait un résumé de différentes choses, de le passer dans un logiciel d'IA générative. Voilà, et je dirais que c'est, disons, dans ces premières tâches, traduction, résumé, préparation de présentation, synthèse, compte rendu de réunion. C'est vraiment sur ces tâches-là, là j'en ai énuméré plusieurs, j'ai parlé au tout début du développement des aspects code, mais sur ces tâches-là, c'est vraiment des modifications de façon de travailler assez considérables. Les outils d'IA générative, donc Bard par exemple, l'outil développé par Google, ou ChatGPT par OpenAI, ils sont capables de faire toutes les tâches que je viens d'évoquer.
L'intelligence artificielle apporte donc de nombreux avantages à leurs utilisateurs, les mettant en quelque sorte sur un pied d'égalité face à certaines tâches, mais comment tirer son épingle du jeu ?
Les ingénieurs et les chercheurs sont armés pour appréhender l'IA. Je pense que ce qui va faire une différence, c'est vraiment la capacité d'évoluer, d'apprendre au cours de sa carrière, la capacité de rester informé, de suivre les évolutions de la technologie. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. C'est à cet endroit-là, d'un point de vue technique, que les ingénieurs pourront tirer leur épingle du jeu. Et d'être aussi capable d'intégrer dans leur métier les évolutions. Aujourd'hui, on est sur un schéma qui est d'avoir toujours plus de données, toujours plus de ressources informatiques qui consomment de l'énergie, qui produisent des modèles de plus en plus complexes, mais à un prix écologique assez important. Et il va y avoir une limite, c'est-à-dire qu'on arrive un peu à un plateau sur cette production massive de données. Et je pense qu'on va assez rapidement se diriger vers un compromis, l'IA hybride, où justement il y a une partie d'intelligence humaine qui est injectée, qui est donnée en information complémentaire a priori, et de l'autre côté, les algorithmes d'intelligence artificielle. Et donc c'est là qu'il va falloir justement tirer son épingle du jeu. Le deuxième aspect, c'est l'intégration des enjeux d'éthique. L'Europe et la France sont très positionnées justement sur ces aspects éthiques, sur les aspects de souveraineté, les aspects de respect des données personnelles ou sensibles, les aspects d'explicabilité, de confiance dans les systèmes. Confiance au sens où on comprend, on peut interpréter les résultats, on peut expliquer les algorithmes. C'est ces deux parties, une partie plutôt technologique et une partie plus éthique, qui permettront de travailler de façon optimale avec l'intelligence artificielle. Je reviens un petit peu sur cet aspect aussi de limite dans la masse de données qui est toujours disponible. Aujourd'hui, dans la partie industrielle, donc vraiment où travaille bon nombre d'ingénieurs, il y a des vraies questions d'intégration de l'IA, et notamment dans certaines problématiques de l'intégration directement embarquée qui doit fonctionner en temps réel. Et donc dans ces cas-là, effectivement, il n'y a pas de ressources, de milliers et milliers d'heures de calcul qui peuvent être utilisées pour arriver à un résultat rapide. Donc toutes ces compétences techniques, comment simplifier, comment embarquer, comment rajouter de l'information, comment extraire les bons résultats, comment être capable de caractériser ces résultats, et tout en intégrant les aspects éthiques, c'est ça qui va permettre d'être en harmonie avec l'intelligence artificielle.
En faisant travailler l'intelligence artificielle de concert avec l'intelligence humaine ?
Alors, il faut arrêter d'opposer intelligence artificielle et intelligence humaine. Donc, c'est quelque chose qu'on a opposé assez souvent par le passé. Donc, le terme est peut-être un peu mal choisi. On parlerait plutôt d'intelligence augmentée. Et en fait, quand on parle d'intelligence augmentée, on se dit que oui, c'est vraiment une collaboration entre l'homme et la machine, sachant que certaines tâches sont faciles pour nous et complexes pour les algorithmes. Par exemple, reconnaître un chat, c'est extrêmement simple pour nous et c'est beaucoup plus complexe pour la machine. Et inversement, on a certaines tâches qui sont faciles pour la machine et complexes pour nous. Par exemple, très très bien jouer aux échecs, hein, c'est plus complexe pour nous. Donc en fait, il faut déterminer ce que nous, on sait faire de mieux. Et en quoi les algorithmes vont nous aider sur des choses qui sont beaucoup plus complexes pour nous. Par exemple, aller faire un résumé d'énormément d'articles dans le domaine médical, eh bien, ça peut apporter un support d'aide à la décision aux médecins. Donc, c'est cette collaboration qui est extrêmement intéressante. Alors après, il va falloir avoir des outils qui permettent de faciliter cette collaboration, donc des interfaces qui permettent de faciliter le dialogue et le passage de l'humain à la machine et inversement. Donc, c'est extrêmement intéressant, justement, cette focalisation actuelle sur la collaboration nécessaire entre l'homme et la machine pour aller vers un humain augmenté.
Peut-on aujourd'hui se passer d'intelligence artificielle ?
Alors l'intelligence artificielle n'est clairement pas une option, il faut vraiment l'utiliser et l'utiliser à bon escient. Principalement toutes les entreprises qui ont vraiment des processus définis par des règles qui pourront être automatisées vont vraiment être avantagées par l'utilisation de l'intelligence artificielle. Donc ça veut dire qu'il faut en fait regarder l'ensemble des processus, l'ensemble des tâches, voir les tâches qui sont automatisables, celles qui vont avoir intérêt à être automatisées, c'est-à-dire qui seront peut-être relativement faciles à automatiser ou alors qui sont vraiment complexes pour l'humain, et les tâches qui n'auront pas d'intérêt à être automatisées. Et il faut aussi regarder, on parle énormément d'IA générative, mais il ne faut pas oublier l'intelligence artificielle telle qu'elle est depuis de nombreuses années. L'IA générative, les premiers modèles datent de 2017, hein, donc ça fait quand même quelques années. Mais l'intelligence artificielle a vocation soit prédictive, soit de résumé, de synthèse des données, existe depuis très longtemps. Elle est utilisée depuis longtemps dans les entreprises avec des usages qui sont maintenant complètement industrialisée. Par exemple, en maintenance prédictive, on a des usages complètement implémentés, industrialisés, par exemple dans le domaine du transport ferroviaire, la SNCF en l'occurrence. Mais on a énormément dans les banques aussi, on a beaucoup d'usages qui sont industrialisés depuis de nombreuses années. Donc il ne faut pas se focaliser uniquement sur l'intelligence artificielle générative, qui a quand même aussi des coûts énergétiques non négligeables. Mais il faut essayer de combiner, en fait, sur un processus ou un problème qu'on définit, comment on peut combiner de manière harmonieuse l'IA générative et l'intelligence artificielle plus classique sur des points relativement précis, et avoir un processus dans ce cas-là qui soit un petit peu plus frugal en termes de conséquences environnementales. L'autre point aussi qui est extrêmement important, c'est de maîtriser les risques. Alors, il ne faut pas sous-estimer la technologie, vraiment, il faut l'utiliser, mais il faut limiter les risques. Alors, ça peut être des risques en matière de protection des données, ça peut être des risques en matière de cyberattaque, ça peut être des risques en matière d'image de l'entreprise. Donc, il faut vraiment, en termes d'emploi aussi, d'évolution des emplois, donc il faut avoir une gouvernance qui permet de maîtriser ces risques, mais il ne faut jamais oublier qu'on peut avoir des bénéfices importants en termes d'usage.
Pour conclure cet épisode et permettre à nos auditeurs et auditrices d'approfondir le sujet, auriez-vous des lectures à leur conseiller ?
L'ouvrage de référence en intelligence artificielle, c'est un livre qui s'appelle Artificial Intelligence, A Modern Approach, par Stuart Russell et Peter Norvig. Stuart Russell, c'est un des pères fondateurs de l'intelligence artificielle. Alors, c'est un très très gros livre, mais par contre qui balaye tous les aspects de l'intelligence artificielle, la robotique, l'apprentissage machine, ce qu'est l'intelligence artificielle, jusqu'à un certain niveau de détail. C'est pas un roman policier comme livre de chevet, mais presque tout est dedans. On est à la 4e édition aujourd'hui, donc je pense qu'il y a des choses... c'est un ouvrage technique. Après, sur des choses plus... des ouvrages de vulgarisation. Très récemment, je pense l'année dernière, il y a un livre, l'IA éducative, l'intelligence artificielle dans l'enseignement supérieur, qui justement traite, il y a plusieurs auteurs, et qui traite de l'intelligence artificielle pour la recherche, pour la formation. Et après, pour en savoir plus et se former, je pense qu'il ne faut pas hésiter à aller sur les sites des grandes universités. Il y a des cours qui sont souvent ouverts, de très très bonne qualité. J'ai notamment Stanford et Berkeley. Il y a deux cours qui sont vraiment très très bons justement sur l'introduction à l'intelligence artificielle. Voilà. Et ces cours sont disponibles. On ne parle pas forcément de Spock ou de MOOC, mais avec des supports, des polycopiés, des slides qui sont en ligne. Donc, ne pas hésiter aussi à regarder des choses comme ça.
Moi, j'ai bien aimé le livre de Serge Habitboul et Gilles Dowek, hein, qui s'appelle « Le temps des algorithmes », parce qu'en fait, c'est vrai que les algorithmes, c'est déjà, il faut le démystifier, ce sont des solutions, ces solutions ne sont pas neutres. Hein. Donc, il faut vraiment comprendre cette notion-là en termes de gouvernance, de responsabilité. C'est vraiment des outils extrêmement intéressants et qu'il faut chercher à comprendre. Et la deuxième lecture que je pourrais recommander, c'est le livre de Yann Lequin, Quand la machine apprend. Donc ça fait pénétrer un peu au cœur de la machine, les enjeux de l'intelligence artificielle et les risques. C'est un livre aussi intéressant pour ça.
Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode de notre podcast Cogitons Science. Un grand merci à nos invités Frédéric Pascal et Marie-Aude Aufort. Vous retrouverez toutes les ressources citées dans la description de cet épisode ou sur la page web du magazine d'actualité Technique de l'ingénieur. Cogitons Science est un podcast produit par Technique de l'ingénieur en collaboration avec Marie-Caroline Loriquet. Le générique a été créé par Pierre Gignot. Et pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous dès maintenant sur votre plateforme d'écoute préférée. Cogitons Science revient en mars avec un nouvel épisode. À bientôt.
beaucoup.